Ce matin, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai été touché durant justement cette fin de semaine là-bas à Toronto, à travers aussi ce que notre nouvelle évêque Linda nous a partagé le dimanche aussi. Et le titre, c'est Porter du fruit durable. Porter du fruit durable. Donc, elle nous a donné l'exemple à travers Jean chapitre 15. Donc, ouvrons notre Bible dans Jean chapitre 15 et nous allons regarder aussi ce que ce texte veut nous dire pour nous aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va apprendre aussi. On va prendre tout à l'heure aussi la Sainte Cène. Donc, c'est une continuité de ce qui se fait aussi à travers ce texte. Alors, prions pour que nous puissions être aussi en mesure d'écouter, d'entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Seigneur, on veut te remercier pour cette occasion que tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir encore regarder à travers ta parole ce que tu veux nous dire. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as préparé nos cœurs, qui nous a encouragés à venir, à participer à ce culte, soyons en présentiel sur YouTube, sur Zoom, et qu'on puisse tous ensemble, Seigneur, voir, Seigneur, ce que tu veux nous dire encore ce matin. Que ce soit ton esprit qui parle à travers ma bouche. Que, Seigneur, notre esprit, Seigneur, notre cœur puisse être réceptif et que nous puissions être encouragés à travers ce que ta parole veut nous dire aujourd'hui. Alors, Seigneur, travaille, travaille en nous, Seigneur. Continue, Seigneur, de nous façonner, de nous transformer pour ta seule gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc, on va voir dans Jean 15 un peu à travers l'exemple de la vigne et puis de comment porter du fruit pour le Seigneur. Un peu de contexte, si vous vous rappelez de Jean chapitre 15. Donc, Jésus est dans ses derniers jours avec ses disciples. Et à un moment donné, il traverse une vigne avec ses disciples. Et là, il va donner l'exemple de la vigne, du sarment, du tronc, de porter du fruit. Et c'est à travers cet enseignement que aussi donc notre évêque Linda nous a partagé. Et je vais vous montrer comment que il y a un parallèle aussi à ce que nous faisons actuellement aussi avec le repas du Seigneur, à travers les éléments que nous prenons. Donc, on va lire Jean chapitre 15. Prochain dia, versets 1 à 8. Alors là, j'ai pris la version parole vivante. C'est peut-être un peu différente de votre Bible, mais c'est une version qui est un peu plus moderne. Mais je trouvais intéressant cette version. Donc, Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Il dit, Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez porter aucun fruit. Verset 5, je suis le cep de la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Prochain dia, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils se déchèvent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Et verset 8. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Amen. Voilà, prochain dia, donc. On va pas aller trop en détail dans tous les versets parce que ce serait beaucoup de temps, mais on va regarder un peu comment justement est travailler ce texte et qu'est-ce que ça veut dire de porter beaucoup de fruits. Donc on voit dans le premier verset qu'on voit Jésus parler qu'il est le cep et que Dieu est que Jésus parle qu'il est le cep, le tronc, et que Dieu est le vigneron. Donc Dieu, c'est comme le propriétaire de la vigne. C'est lui qui prend soin de toute la vigne. Et le cep, comme on le voit un peu sur l'image, c'est un tronc qui est beaucoup plus ancien, qui est solide, et dessus, on y greffe des sarments. Donc, les sarments, ce sont chacun de nous. Même si le tronc est vieux, même si le tronc est un peu tout tordu, comme on peut le voir sur l'image, il n'empêche que c'est sur ce tronc que les sarments vont aller chercher toute la sève pour pouvoir justement grandir et ensuite plus tard porter aussi du fruit. Donc, ça veut dire que chacun de nous, nous sommes ces sarments qui sont greffés sur Jésus, sur le tronc, sur le cep. Et on va chercher notre nourriture spirituelle à travers les enseignements, à travers la parole, à travers l'Église, à travers les frères et sœurs. On a besoin de tirer de cette sève, de cette nourriture uniquement sur Jésus. On ne peut pas être en même temps sur le tronc, sur Jésus, puis en même temps aussi sur le monde. D'aller chercher en même temps la nourriture spirituelle ou qu'on a besoin pour grandir sur Jésus, puis en même temps d'aller chercher d'autres enseignements qui ne sont pas de Jésus. Puisque nous voulons porter du fruit. Et notre corps terrestre, notre corps tout entier, sert à porter du fruit spirituel. Donc, prochain diable, on peut le voir que justement, que le fruit est le but de la vigne. Prochain diable, on ne cultive pas la vigne, on ne cultive pas la vigne ou les vergers juste pour faire joli, pour avoir des belles feuilles ou comme ça. Mais c'est pour porter du fruit qui soit bon à manger. Et il est parlé de plusieurs, de porter du fruit, encore plus de fruits. Mais on va regarder que oui, Jésus nous encourage à porter encore plus de fruits. Pas juste du fruit de temps en temps, pas juste du fruit peut-être juste le dimanche quand on est rassemblés ensemble. Mais encore plus de fruits, c'est-à-dire beaucoup de fruits. C'est ça le désir du vigneron, du Père céleste. Il veut que nous portions du fruit en abondance. Et Dieu veut nous montrer comment le connaître davantage. Voilà pourquoi qu'on voit dans ce texte beaucoup le fait de demeurer en Christ. Et il y a une phrase que j'avais reprise dans un livre que je trouvais très intéressante qui dit « Dieu va nous inviter à demeurer en lui, pas davantage pour lui, mais plutôt davantage en lui. » Il y a une grande différence entre le « pour » et « en lui ». Pas davantage pour lui, dans le sens que souvent, des fois, nous voulons essayer de plaire à Dieu. Nous voulons essayer de faire toutes sortes de fruits pour qu'on soit adopté par le Père, pour qu'on soit approuvé par le Père. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'être davantage en lui, c'est-à-dire de s'abandonner à lui, de demeurer en lui, de rester sous son regard. Et c'est sûr qu'on va après par après aussi porter du fruit. Mais la différence, la grande différence, c'est que ce n'est pas nous qu'on va essayer de porter du fruit, mais c'est qu'on va le faire à travers Jésus-Christ. Donc nous ne sommes pas sauvés par nos actions, nos bonnes œuvres, ça on le sait. Ce n'est pas notre travail ardu que nous pourrions faire pour Dieu qui va déterminer si nous portons beaucoup de fruits. Mais c'est surtout le fait d'avoir demeuré davantage en Christ, d'avoir une relation sincère, durable avec le Seigneur. Et c'est vrai que cette relation avec Dieu, ça se construit. Ce n'est pas du jour au lendemain. Comme par exemple les sarments, ben, au début, il n'y a pas grand-chose, puis au fur et à mesure, il pousse, puis à un moment donné, il y a des petits fruits qui arrivent, de plus en plus grands. Cette relation, elle se développe, elle se construit. On est transformé à travers Jésus-Christ, jour après jour, pour que cette relation devienne de plus en plus intime, beaucoup plus puissante, à travers, comme on l'a vu aussi, à travers le Saint-Esprit, de plus en plus aussi à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Dans le prochain diable, il y a un secret, une vérité qu'on pourrait dire. Si notre vie porte encore plus de fruits, Dieu va nous inviter à demeurer plus profondément en lui. Le Seigneur veut qu'on porte encore plus de fruits, mais il veut avant tout qu'on demeure en lui. On ne peut pas demeurer en lui sans porter de fruits. On ne peut pas non plus porter du fruit réellement pour Dieu si on ne demeure pas avec le Christ. Donc, demeurer, ça signifie rester étroitement lié, s'installer pour longtemps à la même place. On retrouve 10 fois ce terme dans les 6 versets de Jean 15, le terme demeurer. Jésus savait qu'il était dans les derniers temps, il savait que les disciples avaient besoin de cet encouragement de dire de demeurer malgré les difficultés, parce qu'il savait que quelques temps plus tard, ils allaient les abandonner, ils allaient se poser des questions, mais pourquoi Jésus était mort sur la croix? Mais il dit demeurer en moi. Le secret de demeurer en Jésus, ce n'est pas quelque chose d'inatteignable. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé juste à une élite, mais qui est tout à fait réalisable pour chacun de nous. Mais c'est clair qu'il faut mettre un effort, il faut mettre de la volonté. Il y a un désir de dire, Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Je veux faire les choses de ta volonté. Donc, demeurer, si vous le voyez dans ce texte, ce n'est pas juste un conseil ou une suggestion, mais c'est un ordre. Demeurer, c'est-à-dire, il donne un ordre. Vous n'avez pas le choix si vous voulez vraiment suivre Jésus-Christ. Si vous voulez vraiment porter du fruit, il faut demeurer dans le Seigneur. Voilà pourquoi il dit que si on demeure en lui, on va porter encore beaucoup plus de fruits. Le prochain diable, justement, on voit que justement, lorsqu'on porte beaucoup de fruits, il y a différents fruits spirituels. Le premier, c'est un fruit intérieur. Lorsque le Christ vient en nous, lorsque le Christ commence à nous transformer, ça change notre vie, ça change notre façon de voir les choses, ça change un peu notre façon de voir aussi les autres personnes. Vendredi, j'étais avec ma femme, puis on a écouté un film chrétien qui vient de l'Italie, et c'était comme un curé qui, avec un homme, puis son fils allait lui dire, mais écoute, je vais devenir curé ou prêtre de l'église, et puis son père, il veut tout faire pour dissuader son fils, mais comme il n'arrive pas, ben, il va rencontrer le prêtre qui l'a incité son fils, et il va commencer à lui dire, maintenant, il faut que tu lâches mon fils, etc. Il y a une relation qui est en train de se vivre entre les deux, et fur et à mesure, au contact de ce prêtre, cet homme qui était rigide, qui ne croyait pas du tout en Dieu, qui était malhonnête, qui était ingrat envers sa femme, commence à changer, commence à aimer plus sa femme, à commencer à dire des mots gentils, commence à voir que peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose que son fils devienne prêtre. Donc on voit que lorsque justement qu'on est proche de Dieu, lorsqu'on est proche des hommes et des femmes qui sont chrétiens, réellement, ben notre attitude change, nos actions changent. Lorsque le fruit est bon, est prêt et mature, lorsque le fruit est bon pour la consommation, la personne qui va manger ce fruit va être rassasiée, va être édifiée. Et c'est la même chose aussi avec le Seigneur. Lorsque justement que nous sommes rassasiés, lorsque nous sommes édifiés par le Seigneur, à ce moment-là, le fruit qui est à l'intérieur commence à voir à l'extérieur. Voilà le deuxième fruit extérieur. Lorsque justement on vit des transformations à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. On ne peut pas juste garder ça pour nous. Lorsque on vit des bénédictions de la grâce de Dieu, lorsqu'on voit des guérisons de la présence de Dieu, lorsqu'on voit, on vit des miracles du Seigneur, lorsqu'on sent la présence de Dieu en nous, on ne peut pas la laisser cacher, on ne peut pas simplement rester inerte. Ça se voit par nos façons d'être, par nos actions, par nos langages. Et l'autre personne qui est à côté de nous, en face de nous, va être ressourcée, édifiée, va comprendre quelque chose de nouveau sur la vie spirituelle sur Dieu. Comme je parlais justement de ce film avec cet homme et ce prêtre, il ne disait pas grand-chose par rapport à la Bible, il ne disait pas grand-chose par rapport à la relation avec Dieu, mais seulement dans sa présence, seulement dans sa discussion, dans son écoute, cet homme petit à petit a été transformé. Donc lorsque nous portons du fruit et que notre vie intérieure change pour suivre les principes de Dieu, lorsqu'on est transformé à travers cette sanctification, c'est-à-dire de continuer de devenir saint comme le Seigneur le demande, alors justement nos actions, nos agissements vont se voir réellement autour de nous. Et ça peut se signifier de porter du fruit, ça peut être les grâces de la vie chrétienne, ça peut être l'amour, la joie, la paix que nous développons, que nous donnons aussi aux autres. Ça peut être simplement aussi un sujet de reconnaissance, de patience, de persévérance, même dans les temps les plus difficiles. Et les gens vont le remarquer, que si nous sommes différents, si nous sommes une personne qui a de l'attention vers les autres, si nos paroles sont pleines d'amour, ils vont être témoins de nos gestes, de nos actions qui sont différentes d'avant peut-être. Que nos actions ne sont pas là pour s'orgueillir nous-mêmes, pour nous mettre en avant, mais avant tout pour glorifier avant tout Dieu. Donc porter du fruit veut signifier de sauver des âmes aussi pour le Seigneur Jésus-Christ. Et ça se fait tranquillement, selon le rythme que le Seigneur nous donne. Alors c'est vrai qu'il y a un lien étroit entre la première, qui sont justement les fruits intérieurs, et la deuxième qui est vers l'extérieur, parce qu'il faut que ça vienne aussi de l'intérieur, ça commence à l'intérieur, que Dieu nous transforme à l'intérieur pour que ça puisse aussi ressortir, jaillir vers l'extérieur. Voilà pourquoi que Dieu ne veut pas que nous portions juste du fruit, ou quelques fruits. Il veut que nous portions encore plus de fruits, beaucoup plus de fruits, afin que Jésus soit reconnu à travers nous. Et le prochain diable, justement, nous parle que nous sommes créés pour l'abondance, pas pour une vie misérable. Il y a 15 jours, 3 semaines, on a parlé justement de Jean chapitre 10, verset 10, qui dit « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. » Rappelez-vous comment aussi c'est un témoignage de notre fille Déborah, comment qu'elle avait cru les mensonges de l'ennemi. L'ennemi vient pour voler, pour tuer ton espérance, pour voler ce que tu avais avec Dieu. Mais dans la suite du verset 10, il dit « Moi, je suis venu avec les hommes et la vie, une vie abondante. » Voilà ce que le Seigneur veut nous donner. Et cette vie abondante, ça va se faire à travers les fruits que nous allons porter, que nous allons faire pour le Seigneur. Le voleur va venir enlever les fruits, va enlever notre ardeur, notre passion pour Christ. pour simplement qu'on porte peut-être juste un petit peu de fruits. Juste un petit peu, ça ne dérange pas trop. Si on porte juste un petit peu de fruits, on ne dérange pas les autres, on n'évangélise pas, on ne partage pas, on n'est pas trop exubérant, l'ennemi va se satisfaire de cela. Voilà pourquoi que dans ce texte, il dit, il faut que vous portiez encore plus de fruits, beaucoup de fruits. Et cette vie abondante, ce n'est pas forcément de courir après les pasteurs ou les prédicateurs qui promettent l'abondance. Si tu donnes plus d'argent, tu es guéri. Tellement il y a de choses négatives, tellement de choses qui ne sont pas juste erronées dans nos églises, où des pasteurs s'enrichissent devant les autres hommes pour dire, ben, si tu donnes beaucoup, tu vas être béni. Donc les gens, des fois, ont peu d'argent, ils donnent encore plus à l'église, aux pasteurs pour s'enrichir, et eux, ils ne voient rien du tout. Ils ne voient rien parce qu'ils essayent par eux-mêmes de vouloir plaire à Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut. Il veut qu'on porte du fruit à travers lui. Oui, c'est vrai que la vie en Christ n'est pas rose. Elle n'est pas sans difficulté. C'est vrai que la vie avec le Seigneur, ça vaut la peine d'être vécue. Moi-même, je ressens que depuis des années, même si on vieillit, même si peut-être on a moins de capacité, à chaque année, je dis, Seigneur, je te remercie pour l'année, je te remercie pour les bontés, les grâces, les bienfaits que tu nous donnes. Mais les épreuves que nous avons n'arrivent pas par hasard, mais ont un but précis. C'est de nous faire grandir avec notre Père Céleste, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi qu'on a besoin de demeurer plus en lui, de porter encore plus de fruits. Fur et à mesure que même à travers les épreuves et souffrances que Dieu permet d'avoir, nous sommes guidés, nous sommes encouragés, nous sommes fortifiés pour que nous soyons persévérants, pour que nous puissions avoir de plus en plus confiance dans le Seigneur. Et prochain diable, regardez un peu plus loin dans Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16, qui dit, prochain diable, « Ce n'est pas moi qui m'avais choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. » Chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous demanderez en mon nom. Lorsqu'on marche dans cette sanctification, lorsque nous restons sous le regard de notre Dieu, alors nous allons porter du fruit durable, comme il est dit dans ce verset. On va être transformé, on va être renouvelé dans l'appel de mission que Jésus nous a donné. Donc on voit trois choses principales dans ce verset. La première, c'est que c'est le Seigneur qui nous a choisis. Non pas parce que nous sommes meilleurs, non pas parce que nous avons plus de qualité que les autres, mais parce qu'on était disponible, parce qu'on voulait aussi pouvoir aussi suivre le Seigneur. Alors il nous a choisis. Il nous a choisis justement, deuxième point, il nous a choisis pour nous donner une mission. Une mission qui est claire. Et c'est le troisième point, cette mission d'aller là où il nous envoie. On sait aujourd'hui que dans nos sociétés nord-américaines, et surtout québécoises, de partager l'Évangile dans un contexte où les personnes s'éloignent de plus en plus des valeurs chrétiennes, ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas facile. Mais Dieu nous a choisis pour une mission d'aller. Mais pour aller où? Comment aller? Que faire pour aller? J'aime, moi, la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas un livre de règles, ce n'est pas un livre de procédures. Voici A, B, C, D, puis toutes les règles sont dans la Bible. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de principes qui sont dans la parole de Dieu. Mais là, on voit, il nous dit simplement cette mission d'aller. Mais il ne nous a pas dit il faut aller. Le Saint-Esprit va nous diriger là où on a besoin d'aller. Pour chacun de nous, la mission est différente. Voilà pourquoi on a besoin de rester demeuré proche de Jésus, pour qu'on sache quelle est la mission que Dieu veut pour nous. Mais l'ordre est clair, il faut aller. Si nous ne savons pas où il faut aller, ben, approchons-nous de Dieu. Prions, dis Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? Où est-ce que tu veux que j'aille? Est-ce que c'est au travail que tu veux que je sois en témoignage? Est-ce que c'est peut-être à travers du bénévolat dans un organisme? Est-ce que c'est par rapport à un investissement aussi dans l'église locale? Lorsqu'on demeure proche de Dieu, lorsqu'on est en son écoute, le Seigneur va nous dire où aller, comment faire. C'est Jésus qui nous a choisis. Donc si Jésus nous a choisis, il va nous donner les moyens de faire. Il va nous donner des façons de comment porter encore plus de fruits pour que nous puissions être un témoin de lui là où il veut. Et c'est vrai que des fois, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Regardez Paul. Paul a fait des choses extraordinaires dans sa vie. Au début, il a même maltraité les chrétiens parce qu'il pensait que c'était la voie de Dieu. Jésus l'a arrêté sur le chemin de Damas. Ensuite, il a commencé à être transformé. Il a commencé à partager l'évangile. Il a commencé à aller dans différents pays, à implanter des églises. Et jusqu'où il a été? Jusqu'à Rome, en prison. Où là, il a terminé sa vie dans la prison. Et ensuite, plus tard, exécuté. Mais Paul a fait de grandes choses dans sa vie. Même si peut-être il a fini, peut-être on pourrait dire misérable, dans une prison, même après à un moment donné aussi tué à cause de sa foi. Mais Paul est resté fidèle jusqu'au bout. Et dans la dernière phrase, prochain diable, dans la dernière phrase du verset 16, il a dit, « Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Ici, on voit la notion de la prière qui reste le fer de lance de porter du fruit durable. C'est en priant, c'est en confessant le nom de Dieu, c'est en demandant sa grâce, son amour, en demandant le pardon de nos péchés, en restant à son écoute. Alors nous allons savoir comment, où aller, comment marcher. Et nous allons voir que nos prières vont être accordées. Les prières que nous allons faire, ce n'est pas juste pour nous. Ce n'est pas juste pour notre propre satisfaction. Mais ces demandes, ces requêtes seront dans la volonté de Dieu. Parce qu'elles seront guidées par le Saint-Esprit. Lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, lorsqu'on est proche de Dieu, alors ce sont des prières qui viennent de Dieu, du Saint-Esprit. Ce ne sont pas nos prières à nous. « Seigneur, donne-moi plus de cela. Seigneur, donne-moi encore plus de cela. » Non. Ça va être des prières aussi peut-être de grâce, de bonté, de bénédiction aussi. Mais on saura qu'ils vont être exaucés. La parole le dit. Alors si peut-être nos prières ne sont pas exaucées, posons-nous la question, Seigneur. Est-ce que les prières que j'ai faites, est-ce que c'était mes prières à moi, selon mes principes à moi, ou est-ce que c'était des prières qui étaient vraiment imprégnées par toi? Est-ce que c'était vraiment des prières qui étaient dirigées par ton esprit? Voilà l'importance de prier. Voilà l'importance aussi en tant qu'Église de continuer cette prière collective. Voilà pourquoi on continue la semaine de prier. Voilà pourquoi on continue une fois par mois d'avoir ces soirées impact prière. Voilà pourquoi on continue de prier aussi justement pour avec l'Église méthodiste du Canada. Justement dans la conférence, on a suivi un atelier avec le pasteur Ken qui a instauré, qui a développé justement cette notion de prière dans l'Église. Et il nous encourageait à comment devenir une Église de prière. Et on va attendre bientôt de cette formation qui est en train de se traduire en français pour savoir qu'on a besoin de prière. Chaque fois, les gens des fois me disent, « Oui, mais pasteur, nous, on a déjà la prière dans l'Église. » Ce n'est pas une question de faire beaucoup de prières. C'est une question, est-ce que notre Église est dirigée par la prière? Est-ce que notre Église est dirigée par cette relation, cette connexion qu'on a avec notre Seigneur et imprégnée par le Saint-Esprit? Alors, à ce moment-là, ce sont des prières qui vont venir du Saint-Esprit. C'est des prières qui vont venir de Dieu et on va voir des choses se réaliser. Alors, prochain diable. Maintenant, regardons la suite du fruit et du raisin. Oui, donc on peut manger le raisin et c'est vrai que c'est un très bon fruit. Moi, c'est un des meilleurs fruits que je préfère. Mais on sait aussi qu'avec le raisin, on peut faire du vin. Mais je ne sais pas si vous connaissez un peu le processus de transformation du raisin en vin. Moi-même, comme j'ai étudié, j'ai travaillé dans l'agriculture, comment j'ai appris à comment tailler une vigne, comment le processus de transformation du raisin en vin. Mais c'est vrai que je ne suis pas un expert, parce que je n'ai pas continué dans ce domaine vinicole. Mais avec les bases que j'ai compris ce que Jésus voulait expliquer dans le chapitre 15 de Jean. C'est un processus de plusieurs étapes qui peut nous aider à faire comprendre que ce que fait notre Seigneur envers l'humanité chacun de nous. Tout à l'heure, justement, on va prendre le repas du Seigneur à la Sainte Cène. Et qu'à travers ces éléments, nous puissions comprendre ce que Jésus a fait pour nous donner la vie. Donc, le raisin, pour qu'il arrive jusqu'au vin, doit être broyé pour permettre la fermentation, plus tard, produire le vin. Et notre évêque nous a montré une petite vidéo d'un film, d'un ancien film. Je n'ai pas trouvé la vidéo, donc j'aurais voulu. Où on voit, des fois on voit dans des films, hein, surtout en Italie et comme ça, où comme dans la photo, le raisin dans un gros bac et les gens vont à pieds nus dedans puis ils tassent comme le raisin pour le mélanger, pour le broyer. Et lorsqu'on écoutait ce petit bout de film, j'entendais dans la traduction en français qu'il y avait cette transformation du raisin en vin doit être broyé, brisé. pour que vraiment que les arômes puissent sortir et qu'ensuite ça puisse avoir une fermentation qui produit le vin. Et il y a eu ce moi qui a été dit brisé. Et ça m'a touché à ce moment-là d'entendre notre évêque Linda qui nous disait comment que de même Jésus a été brisé. Pas dans le sens que les os ont été brisés sur la croix, on le sait que ça n'a pas été fait. Mais à travers la crucifixion, à travers la flagellation, les rejets, les insultes, tout ce qui a été fait durant ce temps de sacrifice à la croix, a fait que Jésus a été brisé pour apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Il a accepté d'être brisé personnellement, physiquement, pour pouvoir nous donner la vie. Et lorsque je voyais cette image, ça m'a touché, j'ai compris quelque chose de nouveau, justement. Comment que Jésus a été brisé pour nous. Et comment qu'il veut, comme le raisin pour devenir du vin, il doit être brisé, il doit être changé, transformé. Et voilà pourquoi que Jésus, en venant sur cette croix, veut justement nous montrer comment que cet état de brisement qu'il a fait pour nous, nous donne tout son amour pour être transformé. On a besoin aussi, nous-mêmes, chacun de nous, d'avoir cette étape de brisement. Dans le sens qu'on ne vient pas avec notre orgueil, on ne vient pas avec nos suffisances dire « Seigneur, viens me changer ». Non, on se repent, on s'humilie, dire « Seigneur, par moi-même, je n'arrive pas à être changé. Je n'arrive pas à être changé. Donc, brise-moi, façonne-moi. Casse-moi peut-être de mes arguments, peut-être mes façons de faire. » Et je pense que chacun de nous, on a des exemples. Comment que des fois, le Seigneur a dû nous briser, a dû nous casser, pour réellement qu'on puisse mettre malléable en nous, pour que nous puissions ensuite, comme de cette transformation du raisin en vin, avoir un goût qui est exquis, avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de beau et de bon. Alors oui, oui c'est vrai que des fois, comme dans la vigne, on taille les sarments pour pas que les sarments fassent juste de grandir, mais parce qu'on veut qu'ils portent du fruit. Le Seigneur des fois doit nous tailler. Le Seigneur des fois doit un peu justement nous enlever des certaines choses qui prennent trop la cœur. Ce sont peut-être des péchés, des choses qui empêchent de vraiment vivre cette relation de demeurer en Christ. Mais ça peut être aussi des bonnes choses qu'on prend trop de temps et qui nous empêchent d'être avec le Seigneur. Alors oui, tailler dans notre vie, ça fait mal. Ça fait mal des fois d'abandonner certaines choses que nous aimons faire, mais qui ne glorifient pas Dieu. Ça peut être à travers des souffrances, des épreuves comme on a dit tout à l'heure, afin qu'on puisse rester encore plus attaché au sève, attaché à Jésus et puiser uniquement la sève, la nourriture avec lui. Donc le but de tout cela, de ces souffrances, de cet brisement qu'on a besoin, c'est qu'on porte encore plus de fruits pour le Seigneur. Notre évêque Linda nous a partagé une situation. Avant qu'elle n'arrive au Canada, elle était justement évêque pendant 3 ans ou 4 ans aux États-Unis. Donc, la façon qu'aux États-Unis fonctionne, c'est un peu différent qu'au Canada. Mais après 4 ans, normalement, bon, ben, tu es renouvelé, si tu veux. Et elle désirait d'être renouvelée, de continuer. Et il y a eu des choses qui sont passées. Je ne peux pas vous raconter tout. Je ne connais pas tout. Vous irez voir, peut-être, le pasteur Nathan, il connaît un petit peu plus. Mais à un moment donné, c'est qu'il y a eu comme un push, là, dans l'église, dans le sens que, les autres responsables n'ont pas voulu qu'elle se représente comme évêque, parce qu'elle avait une autre vue, lui, les autres responsables voulaient peut-être une autre direction dans l'église, et elle n'était pas d'accord. Elle nous a dit comment que c'est difficile. Comme vous êtes justement comme évêque, comme vous êtes responsable de l'église, de différentes églises et comme ça, quand vous commencez à avoir de l'expérience, vous voulez continuer ce travail que vous avez commencé, et là, du jour au lendemain, tout s'arrête. Et elle nous a dit comment que ça l'a brisé, comment que ça l'a pris beaucoup de plusieurs mois, pour comprendre, dire « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux nous dire ?» Mais Dieu avait un plan. Et huit mois plus tard, elle reçoit le téléphone de demander si elle ne voudrait pas se présenter comme évêque au Canada. Il y a uniquement Dieu qui est capable de faire des choses comme ça. Mais elle a dû passer par ce brisement, cette humilité, pour pouvoir réjaillir. Et je crois que son expérience qu'elle a vécue va aussi nous aider à l'Église méthodiste au Canada. Voilà pourquoi que même quand on est brisé, lorsque on vit des choses difficiles, gardons la foi, gardons la persévérance, parce que Dieu a quelque chose de plus grand pour nous. Jean chapitre 15, versets 12 et 14, Jean chapitre 15, verset 12 et 14 dit, voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Imaginez, Jésus va dire cette phrase en sachant que dans quelques instants plus tard, il allait être crucifié, il allait être maltraité, que ses amis, les disciples, allaient l'abandonner. Mais il l'a fait par amour pour nous. Il l'a fait sur la croix. Ce n'est pas juste un concept, ah oui, aimez-vous les uns les autres, comme ça c'est bon et tout ça. Non, non, non. Oui, aimez-vous les autres comme je vous ai aimé. Et regardez ce que je vais faire. Je vais aller jusqu'au bout. Moi, le Fils de Dieu, je suis prêt d'aller sur la croix, la pire des infâmes, pour vous donner la vie. Il a été brisé pour nous démontrer son grand amour envers nous. Il était jusqu'au bout. Afin que nous aussi, nous puissions l'aimer à notre tour. Et aimer aussi les autres comme Jésus nous a aimés. Jésus vraiment a aimé d'un amour extrême, en allant mourir sur la croix pour nous, comme un malfaiteur. Et voilà pourquoi il ne nous demande pas, ce n'est pas une suggestion, « Ah ben, si vous pouvez, de temps en temps, aimez-vous les uns les autres. » Non, il dit que c'est un commandement, « Aimez-vous les uns les autres. Si vous êtes mes amis, vous faites ce que je vous commande. » Donc on n'a pas le choix. Si on veut suivre Christ, si on veut demeurer dans sa parole, si on veut demeurer en lui, nous devons nous aimer les uns les autres. Alors c'est vrai que nous sommes des humains, nous avons chacun nos caractères, des fois peut-être que des fois il y a des tiraments, des tensions, et même aussi au sein de l'Église, et même durant cette fin de semaine à la conférence, j'ai entendu comment il y a eu des pleurs, il y a eu des réconciliations qui ont été faites par rapport à des situations qui sont passées dans l'Église méthodiste au Canada. Je vous commande, si vous êtes mes amis, de vous aimer les uns les autres. Nous sommes les amis de Jésus si nous faisons ce qu'il nous commande. Et ça se démontre à travers les fruits, à travers justement cette grâce, cet amour que nous avons les uns les autres, à travers la patience, la persévérance, de demander pardon, d'accorder notre pardon devant les situations. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu sans aimer notre prochain, sans aimer celui que Dieu met sur notre route. Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile. Mais Dieu nous dit, si tu demeures en moi, tu vas porter du fruit. Et tu vas voir comment que aimer les autres va être capable de le faire. Voilà donc comment le raisin qui est broyé, retourné comme dans l'image, tout cela est pour que la transformation du raisin en vin puisse se faire et que le vin soit bon. Les prochains dias, on voit la même chose dans notre vie. On a besoin d'être transformé pour porter du fruit et que ce fruit soit agréable, puisse glorifier Dieu. Cette transformation se fait à travers le brisement, à travers la sanctification jour après jour. Comme qui nous permet, comme le vin, d'avoir du goût, d'avoir quelque chose de plus. Et Jésus l'a dit dans le verset 8 que nous avons lu tout à l'heure. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Donc Jésus s'attend à ce que nous portions du fruit en abondance. Jésus s'attend à ce que nous puissions justement porter encore plus de fruits. Non pas pour nous glorifier, mais que Dieu soit glorifié, afin que le monde reconnaisse que c'est grâce au fruit que Dieu permet dans notre vie qu'il soit glorifié. Alors, lorsque les gens nous voient, est-ce qu'il peut dire, waouh, cette personne, cet homme, cette femme-là, cet enfant, ce personnage âgé-là, je vois vraiment qu'il y a quelque chose de spécial, je sens qu'il y a quelque chose. Est-ce que nous sommes prêts à rester demeurés en Christ? Sommes-nous prêts aujourd'hui devant cette table que le Seigneur nous présente, de prendre ce repas, de prendre ces éléments, pour ce pain qui représente ce corps qui a été meurtri pour nous donner la vie, et par cette coupe qui représente son sang qui a coulé pour nous pardonner nos péchés. Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, oui, je te demande pardon. Je te demande que tu puisses changer ma vie. Je te demande que je puisse me rapprocher, que je puisse demeurer encore plus proche de toi. Aide-moi à t'aimer encore d'amour encore plus grand, avec tout ce que tu as fait pour nous. Aide-moi aussi à aimer mon prochain, mon frère et ma soeur, une autre personne qui est autour de moi, un collègue, un voisin qui peut-être me tape sur le système, comme on pourrait dire. Aide-moi à l'aimer comme toi, tu m'as aimé le premier. Alors simplement, courbons notre tête, et j'inviterai le groupe de louanges à venir, on va prendre un chant, pour nous préparer à venir devant cette table. reconnaître que nous allons prendre ces éléments en rappel de ce que Jésus a fait il y a plus de 2000 ans. Et c'est un rappel aussi parce qu'encore aujourd'hui, Jésus veut nous dire, je t'offre mon corps, je t'offre mon sang pour être racheté, pour être lavé, pour purifier. Est-ce que tu vas le prendre avec un renouveau, un désir encore de plus de me suivre? Est-ce que tu vas le prendre en me disant, oui, je t'aime encore d'un amour encore plus grand? Est-ce que tu vas prendre ces éléments pour me rappeler tout ce que j'ai fait pour toi? Est-ce que tu vas le prendre aussi pour que je puisse encore à travers toi porter encore plus de fruits, pour que la gloire de Dieu rayonne, pour que les gens réalisent que nous sommes réellement les disciples de Jésus-Christ? Alors laissons simplement l'Esprit de Dieu nous parler, pour que lorsque nous allons prendre ce repas, que nous sommes peut-être que le Saint-Esprit puisse nous appuyer sur peut-être un point que nous avons besoin de travailler, peut-être de pardonner à quelqu'un, peut-être d'aimer une personne encore plus, de façon plus grande. Peut-être c'est de se rapprocher encore plus de Dieu. C'est encore plus peut-être de demeurer en lui. Peut-être c'est encore porter encore plus de fruits. D'accepter, de dire, Seigneur, je ne veux pas me contenter de juste quelques fruits. Je veux faire des actions pour toi. Je veux rayonner pour toi. Je veux avoir cette passion pour toi. Alors nous croyons qu'à travers ce repas, le Saint-Esprit est là pour nous rajeunir, pour nous faire rejaillir, pour nous donner une vigueur, une passion nouvelle, pour nous pardonner. Donc on ne prend pas ces éléments juste pour un rappel, comme peut-être un symbole, mais c'est beaucoup plus que cela. À travers le repas du Seigneur, on peut être transformé, on peut demander sa grâce, on peut être guéri, on peut être restauré physiquement, spirituellement, émotionnellement. Alors simplement venons devant lui et que ce repas, que ces éléments que nous allons prendre puissent nous transformer pour être vraiment des disciples de Jésus-Christ. Alors nous sommes invités à venir devant cette table pour prendre ces éléments afin que nous puissions rappeler ce que Jésus a fait il y a plus de 2000 ans, mais qui est encore tellement vrai pour chacun de nous encore aujourd'hui. Alors vous pouvez venir comme vous devez, comme un signe, dire oui Seigneur, je viens devant ta table, je veux marcher avec toi, je veux suivre ton commandement, je veux encore porter encore plus de fruits. Je veux demeurer dans ta présence. Vous venez chercher les éléments, puis retourner par les allées de côté, et on va prendre les éléments après tous ensemble ici. Alors venez, Jésus nous offre son corps et son sang pour nous purifier, pour nous changer. Et c'est notre désir d'être purifié, d'être lavé, de purifier comme l'ange, afin que notre vie puisse glorifier Dieu, afin que nous portions encore plus de fruits pour lui seul. Alors écoutons cette invitation à venir devant sa présence. Il nous a dit, si vous repentez sérieusement et sincèrement de vos péchés, si vous vivez dans l'amour et dans la paix avec votre prochain, si vous menez une nouvelle vie en suivant les commandements de Dieu, si vous marchez dans ses saintes voies, si vous vous approchez de lui par la foi, si vous prenez ce Saint-Sacrement pour votre consolation, adressez dans une humble prosternation cette confession honnête au Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, Créateur de toutes choses, juge de tous les humains, nous confessons que nous avons péché, que nous sommes profondément attristés en pensant à toutes les choses mauvaises de notre vie passée. Nous avons péché contre toi, ô Dieu Saint, et contre ton amour. Nous ne méritons que ton indignation et ta colère. Nous nous repentons et nous regretterons profondément d'avoir mal agi, de ne pas avoir accompli les actes que nous aurions dû faire. Nos cœurs sont contrits et nous reconnaissons que nous sommes désespérés sans ta grâce. Accorde-nous ta clémence, Père miséricordieux. Pardonne-nous par égard pour ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Pardonne-nous et purifie-nous. Donne-nous la force de te servir et te plaire en nouveauté de vie, en t'honorant et en louant ton nom, grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Entends-nous, ô Père miséricordieux, car nous te demandons humblement de nous accorder, en prenant ce pain et cette coupe, comme il l'a ordonné, et en mémoire de sa passion et de sa mort, de participer à son sang et à son corps très saint. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit en donnant à un disciple en disant, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire. » De même, après le repas, il prit la coupe et après rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en voyez. On te remercie encore ce matin. À travers ce pain, Seigneur, nous démontre ce corps qui a été brisé. Comme on l'a vu, Seigneur, avec cet exemple du raisin qui doit être déchiré, moulu, pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir avoir un vin de qualité. Seigneur, tu as été brisé à travers tes meurtrissures, à travers le rejet, à travers la flagellation, toutes ces meurtrissures que tu as faites pour nous. Tu l'as fait par amour. On n'est pas digne, Seigneur, de recevoir cette grâce. On n'est pas digne de recevoir ton pardon. Tu l'as fait une fois pour toutes, pour chacun de nous. Et Seigneur, encore ce matin, on veut te remercier pour ce corps qui est épuisé. On veut te remercier pour ce sang qui a coulé. Ce sang qui nous permet d'être purifié, lavé de tous nos iniquités, de tous nos péchés. Oui, Seigneur, ce n'est pas nous qu'on essaye d'être juste. Ce n'est pas par nos façons de faire, nos propres fruits, qu'on va pouvoir te plaire. C'est seulement, Seigneur, à travers le sang qui a coulé pour nous. Alors, merci. Merci, Seigneur, pour ce rappel à travers ces éléments. Et que, Seigneur, nous puissions encore, durant cette semaine, porter encore plus de fruits pour toi. Que nous puissions encore plus, Seigneur, demeurer en ta présence, demeurer en toi. Que, Seigneur, tu nous demandes, comme le dire, tu nous commandes de nous aimer les uns les autres. Aide-nous à avoir cet amour pour l'autre. Aide-nous à être simplement ce témoin à travers nos actions, nos paroles, nos agissements. Que le monde voie que nous sommes des véritables disciples de Jésus-Christ. Et qu'il puisse glorifier ton nom. Oui, Seigneur, nous voulons, en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant que frère et sœur, nous voulons que notre vie, que nos agissements, nos paroles puissent te glorifier toi seul. Et que le monde reconnaisse que tu es le seul Seigneur, celui qui a été crucifié pour nos péchés. Et qui nous donne la vie, le salut de notre vie. Alors merci. Merci pour ce rappel, Seigneur. Je te prie de bénir chacun de nous, qu'on soit ici en présentiel, qu'on soit sur Zoom, sur YouTube, que Seigneur Jésus, tu puisses maintenant, par ta grâce, apporter cette joie, cette paix, cette bonté qui vient de toi. Et que nous puissions continuer, Seigneur, de te reconnaissant pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Béni soit ton nom. Tu es grand, tu es merveilleux. On veut continuer de proclamer haut et fort que ton nom seul est grand. Gloire à toi, Seigneur. Amen.